Les infos.
Bonsoir à tous. Les réactions de la classe politique se sont multipliées aujourd'hui après la mort du maire de Signes, près de Toulon. Il a été renversé par un conducteur qui venait déposer illégalement des gravats sur un terrain privé. Le président des maires ruraux de France invite tous ses collègues à mettre en berne le drapeau des mairies le jour des obsèques par solidarité. Le conducteur de la camionnette et son passager ont été interpellés. Ils affirment qu'il s'agit d'un accident. Le ministre de l'Intérieur promet que toute la lumière sera faite sur cette affaire. Christophe Castaner, qui a remis aujourd'hui à titre posthume le titre de la Légion d'honneur à Franck Chesneau, ce pompier décédé vendredi dernier dans le crash de son avion alors qu'il luttait contre un incendie à Générac dans le Gard. Une cérémonie d'hommage avait lieu ce matin. Concernant l'incendie, les autorités évoquent la piste criminelle. Une enquête est en cours. 20 départements sont placés en vigilance orange aux orages ce soir, du Tarn-et-Garonne au Bas-Rhin. Des orages localement violents accompagnés de fortes pluies, de la grêle et aussi des rafales de vent pouvant dépasser 80 à 100 km/h. Un adolescent soupçonné d'avoir poussé un jeune Français de 6 ans du 10e étage à Londres est inculpé pour tentative de meurtre. Il comparaissait aujourd'hui devant le tribunal. Sans raison apparente, il aurait poussé l'enfant du haut du musée Tate Modern à Londres. La victime est dans un état critique mais stable. Suite à de nouvelles manifestations hier à Hong Kong, la police annonce avoir arrêté 148 personnes, dont le ou la plus jeune aurait 13 ans. Les militants en pro-démocratie avaient lancé un appel à la grève générale qui a paralysé la ville toute la journée hier. C'était une figure de la littérature afro-américaine. L'écrivaine américaine Toni Morrison est décédée à l'âge de 88 ans. Elle avait obtenu le prix Nobel de littérature et le prix Pulitzer en 1988 pour son roman Beloved. Toni Morrison reste aussi dans les mémoires pour sa trilogie emblématique sur l'histoire des Afro-Américains. Et puis un mot de foot pour terminer. Laurent Koscielny à Bordeaux, c'est fait. Les Girondins viennent d'annoncer la signature de l'international français d'Arsenal pour renforcer leur défense. Il a passé sa visite médicale avec succès ce matin et s'engage pour 3 ans avec les Girondins. Bonne fin de journée à tous.
CFM, le MAG, tous les jours, 17h, 17h30. La vie du Tarn-et-Garonne.
Soyez les bienvenus à tous, c'est votre MAG du Tarn-et-Garonne sur CFM et du Lot évidemment, parce que nous parlons aussi du département du Lot. Et c'est maintenant, je suis très content de vous retrouver encore une fois, c'est le MAG de l'été évidemment, vous l'avez compris, tous les jours à 17h avec la rediffusion le lendemain à midi. Alors aujourd'hui nous allons parler patrimoine, nous allons parler musique aussi, grâce à une grande soirée qui se déroule le 9 août à l'abbaye de Beaulieu en Rouergue. J'espère que je l'ai bien prononcé, on va le savoir dans quelques instants. Et c'est là-bas, dans cette fabuleuse abbaye du 12e siècle, le centre des monuments de France, le centre des monuments nationaux de France évidemment, et l'association Le Cabaret du Hasard vous propose une diffusion sur grand écran géant de Tosca, l'opéra de Puccini. Alors c'est donc le moment dans cette émission de vous faire visiter l'abbaye, du moins succinctement, pour vous donner envie d'y aller, mais c'est aussi l'occasion de parler non seulement du Centre des Monuments Nationaux et de ses actions, grâce à notre invité, Benoît Grécourt, qui est administrateur au Centre des Monuments Nationaux. Bonjour Benoît.
Bonjour Yannick.
Alors effectivement, j'ai bien dit, c'est bien Beaulieu en Rouergue.
C'est ça, donc, c'est tout à fait ça.
C'est du côté de
C'est à Ginals. C'est entre Saint-Antonin-Nobleval et Caylus.
Voilà, faut pas m'en vouloir, je viens seulement d'arriver dans la région, j'ai encore un peu de mal à situer. Alors, on va vraiment découper en trois parties, parce que c'est intéressant de savoir que l'abbaye fait partie des centres des monuments nationaux. Et d'abord, la question est, qu'est-ce que c'est justement que le Centre des Monuments Nationaux ?
Alors, bonne question. Le Centre des Monuments Nationaux, c'est un établissement public sous tutelle du ministère de la Culture. Et c'est donc un établissement qui gère une centaine de monuments qui appartiennent à l'État ou bien au centre lui-même, c'est-à-dire à l'établissement public. Donc parmi ces monuments, on a des fleurons de notre patrimoine, comme l'Arc de Triomphe dont on a parlé ces derniers temps, et Notre-Dame, les tours de Notre-Dame, mais aussi des monuments sur les territoires, comme le château de Gramont et l'abbaye de Beaulieu-en-Rouergue, qui sont les deux monuments nationaux du Tarn-et-Garonne.
Et puis en Occitanie, on peut citer parmi les choses aussi, hein, j'ai vu qu'il y avait les châteaux et remparts de la cité de Carcassonne.
Absolument.
J'ai vu qu'il y avait le site archéologique et musée d'Anciennes Runes et le château de Gramont.
Oui.
Quels sont les critères en fait pour être considérés comme monuments nationaux ? Parce que des châteaux, il y en a plein. Ils sont pas monuments nationaux. Ils sont pas gérés par vous.
Oui. Alors il y a une grande différence entre un monument historique et un monument national. Donc le monument national, comme le nom l'indique, appartient à l'État. ou bien en tout cas à un établissement public. C'est le cas donc des deux monuments du Tarn-et-Garonne qui appartiennent non pas à l'État mais à l'établissement public qu'est le Centre des Monuments Nationaux directement.
Alors ça, on va en parler dans la deuxième partie de cette abbaye, parce que je pense qu'elle a beaucoup d'histoire pour que, évidemment, elle soit considérée comme étant un centre, un monument national. Quel est donc finalement votre rôle ? Est-ce que c'est la préservation, on peut le dire, l'entretien de ces monuments ?
Alors, le Centre des Monuments Nationaux a des missions qui sont très variées. D'une part, c'est effectivement la conservation des bâtiments et de leurs collections, c'est-à-dire le mobilier ou les œuvres d'art qui sont dans ces monuments, mais aussi donc la diffusion culturelle et puis l'accès pour tous à ces différents monuments et à la programmation qui y est développée.
Et il s'est financé par qui ?
Eh bien, c'est financé par vous, mon cher Yannick,
d'accord,
par moi et par le ministère de la Culture en général. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que le Centre des Monuments Nationaux a une grande part d'autofinancement, puisque il fonctionne sur le principe de péréquation, c'est-à-dire que les monuments qui reçoivent le plus de visiteurs, comme le Mont Saint-Michel ou bien le Panthéon par exemple, eh bien vont financer des monuments qui en reçoivent moins, comme l'abbaye de Beaulieu ou bien le château d'Assier qui est dans le Lot par exemple. Donc c'est vraiment un équilibrage très intéressant qui permet à cette centaine de monuments, puisque le CMN gère une centaine de monuments, d'être parfaitement sauvegardés, entretenus et surtout de proposer 1000 choses intéressantes au public.
Quand on parle du Mont Saint-Michel, alors on est étonné de savoir que c'est vous presque qui le gérez, parce que on pourrait dire c'est une ville, le Mont Saint-Michel. Mais c'est quoi, c'est-à-dire c'est juste les remparts et avec l'église, pour vous donner une idée de votre rôle, ou c'est aussi tout le Mont Saint-Michel en règle générale?
Non, ça n'est pas tout le Mont Saint-Michel, qui est effectivement une commune à part entière.
D'accord.
Donc le Centre des Monuments Nationaux gère l'abbaye qui donc domine le village, donc qui est composé de l'église abbatiale et des différents bâtiments abbatiaux. C'est ce qu'on appelle la merveille.
D'accord.
Voilà. Donc c'est une abbaye, en fait. C'est l'abbaye du Mont-Saint-Michel.
Et en ce qui concerne Notre-Dame, moi j'étais persuadé que ça appartenait à l'église, en fait.
Non, les églises appartiennent à l'État, mais elles sont gérées bien souvent par l'église. Mais les cathédrales ont une spécificité. Bien souvent, les tours sont gérées par le Centre des Monuments Nationaux. Et c'est aussi le Centre des Monuments Nationaux, souvent, qui s'occupe de leur entretien.
D'accord.
Mais Notre-Dame est très spécifique, donc ce sont les tours de Notre-Dame qui sont gérés par le CMN et non pas la cathédrale en elle-même. Et les tours se visitent. On peut aller visiter les tours et donc avoir une vue magnifique sur Paris. Alors, bien entendu, en ce moment, ça n'est pas d'actualité, mais on espère réouvrir le plus vite possible.
Ça, je vous le confirme, une très très belle vue. Et ce qui est assez intéressant et incroyable aussi, c'est que les gens cherchent tout le temps où est Quasimodo, hein, en même temps.
C'est, hein, ça.
Donc, c'est un peu comme ça. Dans le cadre justement de ces monuments, est-ce qu'on peut imaginer qu'il va y avoir d'autres monuments que vous allez acquérir, ou est-ce que là, la liste, elle est arrêtée ?
Non, c'est une liste qui évolue sans cesse, parce que certains monuments privés sont donnés à l'État ou bien au CMN directement. Ça a été le cas d'ailleurs pour les deux monuments que j'ai le plaisir d'administrer dans le Tarn-et-Garonne. Et puis il y a aussi parfois d'autres administrations qui possèdent un château, que ça peut être une municipalité ou un département, et qui au bout d'un certain temps décident d'en confier la sauvegarde et puis la gestion au CMN.
Alors justement, vous disiez que votre rôle, Benoît Gricourt, c'est administrateur. Ça veut dire déjà dans un premier temps qu'il y a plusieurs administrateurs.
Oui, c'est ça. On est une trentaine pour l'intégralité des monuments. Et donc, chaque administrateur gère une circonscription. Et la circonscription est composée de plusieurs monuments. Parfois un seul, mais la plupart du temps, c'est deux ou trois. Et voilà, donc moi, j'ai les deux monuments du Tarn-et-Garonne.
Et quel est votre rôle ? Est-ce que c'est le rôle, effectivement, pour simplifier, c'est le rôle de directeur ?
Oui, c'est à peu près ça. Un administrateur, c'est un peu comme un chef d'entreprise. Il gère son monument de A à Z, c'est-à-dire aussi bien sa conservation et la conservation des collections que la programmation culturelle, les équipes, bien sûr, qui font vivre le monument. Et puis aussi les relations publiques, ce qui m'amène ici par exemple, ou bien les recherches de mécénat, puisque pour une programmation culturelle ou même pour des restaurations, le CMN a une politique très offensive de mécénat privé. Donc c'est un boulot très, très large et très complet.
Quel est le parcours qu'il faut avoir d'ailleurs pour se retrouver administrateur? Est-ce qu'il y a il faut avoir une formation spécifique dans les monuments nationaux? Parce que j'imagine que vous êtes au courant de tels travaux que l'on peut faire et de ce que l'on peut pas faire.
Oui, alors les profils des administrateurs sont très variés. C'est ce qui fait aussi la richesse de l'établissement. Pour ma part, j'ai fait des études d'histoire et de tourisme, mais d'autres de mes collègues sont conservateurs. Donc on a eu le concours de conservateur. Mais ils ne sont pas en majorité. D'autres sortent de l'administration publique. Enfin, c'est assez varié. Voilà. Alors, par contre, au siège du CMN qui est à Paris, à l'hôtel de Sully, dans le Marais, là, nous avons les différentes directions et les différents pôles qui viennent en appui des monuments. Par exemple, le pôle du développement des publics qui s'occupe de la programmation culturelle à l'échelle nationale. Ou bien encore la direction des monuments et des collections, où là on a des conservateurs, des techniciens supérieurs des bâtiments de France qui nous aident et qui nous aident à suivre les chantiers de restauration quand il y en a.
Alors du coup, Benoît Grécourt, vous êtes administrateur, donc je le répète, au Centre des Monuments Nationaux et vous occupez de l'abbaye de Beaulieu et du château de Gramont.
C'est ça.
On va parler de l'abbaye de Beaulieu, parce que ce vendredi-là d'ailleurs, ça passe vite, dites-moi. Vous organisez quand même quelque chose d'assez exceptionnel, alors on va essayer de comprendre pourquoi. Mais d'abord, on va parler de l'abbaye. On va se faire un petit peu d'argent de poche, hein, parce que c'est un peu comme ça. Et puis on en parle juste après. Vous restez avec nous, vous êtes sur CFM, c'est le mag du Tarn-et-Garonne et du Lot.
CFM, à Moissac, 90.7.
Le 14 et 15 août, venez passer un grand moment au traditionnel marché des potiers de Quélus. Le marché des potiers, un rendez-vous familial avec 35 exposants, céramistes et potiers, des initiations à la poterie pour les enfants, des démonstrations de tournage, une exposition concours dans la salle de la mairie pour tenter de gagner une pièce unique d'une valeur de 150 euros. Marché organisé par l'association L'Atelier, artisans et commerçants de Quélus. Le marché des potiers, deux jours à ne pas manquer, le 14 et 15 août, de 9h à 19h. Renseignements sur www.latelier-quélus.com.
L'heure est à la fête à la ferme des Casalous, producteurs de canards gras à Puy-Jourdes. Visite de l'exploitation, dégustation, concours de pétanque le samedi avec 900 euros de lot. Tête à tête le matin et en doublette l'après-midi. Bruno et son équipe de canetons vous accueillent dans une ambiance chaleureuse et gourmande. Avec la ferme des Casalous à Puy-Jourdes, on s'amuse, on partage, on visite et on déguste. Hey, hey, hey. Le vendredi 9 et samedi 10 août, anniversaire de la ferme des Casalous. L'animation des repas sera assurée par Mamzel.
Vous hésitez dans vos lectures de l'été? Entrez dans le cercle et laissez-vous guider.
Dans plusieurs passages du livre, on le voit.
J'ai trouvé aussi qu'il y avait beaucoup d'humour.
Oui,
c'est vrai, c'est vrai.
Oui, l'humour et l'érotisme, on va lier les deux.
Ah bon?
Le cercle de lecture de Confluence, c'est tout l'été.
Nous saurions trop vous conseiller. Vraiment, c'est quand même un très très beau livre, Le Confluence.
Du lundi au jeudi, à 20h, sur CFM.
Bonne lecture.
CFM, le mag, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Avec rediffusion le lendemain à midi, et cette fois nous parlons patrimoine avec l'abbaye de Beaulieu en Rouergue, un très beau bâtiment, en compagnie de son administrateur qui nous fait le plaisir de venir ici à Montauban dans les studios de CFM, Benoît Grécourt. Pourquoi on parle de cette abbaye? Je vous le répète, tout simplement parce que vendredi, il y a un beau spectacle. On en parle à la fin. Promis, vous ne serez pas déçus. Je suis même méchant parce qu'en fait, je ne parle que du spectacle, mais il y a autre chose avec. Voilà, ça c'est du teasing. Vous restez avec nous, vous allez le savoir dans quelques instants. Comment on présente cette abbaye, Benoît? Elle est du 12e siècle, mais encore. Pardon, j'ai oublié, voilà.
Voilà, pour commencer, c'est une abbaye cistercienne. Et ça, c'est très important. Donc,
pourquoi?
Vous savez que les moines étaient répartis en plusieurs ordres. Et donc, les cisterciens qui sont issus des bénédictins, donc qui suivaient la règle de Saint Benoît, ont adopté un type architectural qui leur était vraiment propre et très très précis, qui se retrouve d'ailleurs dans les différentes abbayes cisterciennes en général. C'est un plan en quadrilatère. Alors, pour commencer, donc qui sont les cisterciens? Donc ce sont des moines qui au XIIe siècle décident de s'éloigner de la richesse et de l'opulence de l'Église qu'ils trouvent en parfait décalage avec la vie monastique. C'est vrai que l'Église était très enrichie à cette époque-là, et donc ils vont fonder un ordre ils vont retourner à une véritable sobriété de la vie, une vie de prière, une vie de travail, et ils vont s'installer dans des lieux qui sont, on dirait aujourd'hui, au milieu de nulle part, c'est-à-dire vraiment très retirés de la population. Et donc le plus célèbre des cisterciens, c'est Bernard de Clairvaux, qui a été, je dirais, la personne qui a permis une extension incroyable des cisterciens au XIIe siècle, puisque ça s'est essaimé partout en Europe. Et c'est Bernard de Clairvaux lui-même qui fonde l'abbaye de Beaulieu en Rouergue en 1244.
Mais vous, c'est marrant parce que vous me dites que ces moines-là en avaient un petit peu marre du faste et de l'or de l'église, donc ils se mettent sur quelque chose d'un peu plus modeste, mais en même temps, c'est pas si modeste que ça, puisqu'on en fait un monument.
Oui, mais une église est monumentale. Elle a beau être la plus sobre possible, elle est monumentale. Et justement, l'architecture cistercienne est extrêmement épurée. Et vous ne trouverez pas, par exemple, de sculptures représentant des saints dans cette église. On a quelques motifs sculptés qui est de feuillage, mais c'est tout. En fait, il y a vraiment une grande sobriété. D'ailleurs, Bernard de Clairvaux avait même banni la couleur de la vie cistercienne. Donc, on utilisait quelques petites couleurs très pâle et très naturel, du vert d'eau, du bleu très pâle ou du rose, et c'est tout. Sinon, il n'y avait pas du tout de couleur. Il pensait que ça pouvait éloigner le moine de la prière.
Donc, on ne va pas trouver dans l'église de cette abbaye un retable magnifique avec des statues, des feuilles d'or partout.
Alors, les aléas de l'histoire font que le pauvre Bernard de Clairvaux, dans les siècles qui suivaient, a été un petit peu démenti, parce que au fur et à mesure, eh bien, les moines se sont éloignés de cette règle de sobriété, et puis, eh bien, l'homme étant ce qu'il est, eh bien, on est revenu à du mobilier opulent, du mobilier doré, etc. Mais à Beaulieu, tout a été éparpillé à la Révolution. Et aujourd'hui, si vous voulez voir le maître hôtel de Beaulieu, qui date du XVIIe et qui est extrêmement baroque, très très doré, très fastueux, il est à l'église de Verfeil-sur-Cé, qui est juste à côté, le village juste à côté. C'est une église qui se visite aussi.
D'accord. La Saint-Alexandre, c'est ça ?
Alors là, vous me posez une colle, Yannick.
Il me semble que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps.
Je pense que c'est Pierre et Paul, mais peut-être.
Bon, on découvre la région, c'est comme ça. Et alors, c'est ça qui est étonnant d'ailleurs, c'est que la Révolution, on a vu énormément d'églises et de monuments qui ont disparu. Moi, personnellement, j'ai vu un monastère qui a été transformé en ferme. Oui. Même encore à ce siècle-là, hein, je l'ai encore vu. Et ça a été le cas d'ailleurs pour cette abbaye aussi.
Oui, c'est-à-dire qu'à la Révolution, à la veille de la Révolution, il faut dire que l'abbaye, d'un point de vue religieux, vivotait. Il n'y avait plus énormément de moines, il y en avait 4 ou 5. Et l'abbaye, qui était une grande exploitation viticole, était surtout gérée par les frères convers, c'est-à-dire des frères qui étaient des laïcs et qui, eux, travaillaient pendant que les moines, eux, consacraient leur vie à la prière. Et donc, lorsque les derniers moines partent à la Révolution, 1791, eh bien le monument est saisi, il est vendu comme bien national, et il est vendu à des exploitants agricoles. Et donc, ça devient une exploitation agricole. Et ça, jusqu'à la fin du 19e, on y a fait du vin, jusqu'à l'épidémie de phylloxéra qui a ravagé toutes les vignes.
D'accord.
Et c'était encore une ferme au milieu du 20e siècle.
Benoît Grécourt, quand on a un bâtiment qui est géré par le Centre des Monuments Nationaux, est-ce que ça veut dire que le bâtiment est forcément... on fait les travaux nécessaires dès qu'il y a, automatiquement ?
Oui, absolument. C'est l'une des missions principales du CMN que de conserver les monuments dans un bon état. Et donc nous avons même dans mon équipe, j'ai une technicienne supérieure des bâtiments de France qui est là au quotidien et qui gère les différents petits chantiers, les reprises de toiture quand il y a eu du vent et qu'une tuile a bougé par exemple, ou bien les gouttières, etc. Et puis chaque année on a de petits travaux, et ensuite parfois il y a de gros chantiers quand les monuments le nécessitent, et c'est ce qui va d'ailleurs arriver à l'abbaye de Beaulieu, puisqu'à partir d'octobre nous entrons dans une phase de travaux très importante qui va nous mener jusqu'en 2021.
J'allais vous en parler. Qu'est-ce que ça va être, ces travaux ?
Alors, Pour vous expliquer ce que seront ces travaux, il faut déjà que je vous parle de deux personnes qui s'appellent Pierre Brache et Geneviève Bonnefoy. Ce sont deux collectionneurs d'art qui, dans les années 50, vont tomber fous amoureux de l'abbaye de Beaulieu et qui vont la racheter, la restaurer, parce qu'à cette époque-là, c'était dans un état mais désastreux. On imagine pas ou difficilement aujourd'hui à quel point c'était... effets surtout de l'exploitation agricole et de du manque d'entretien pendant l'intégralité du 19e et le début du 20e siècle.
D'accord.
Et donc ils vont sauver l'abbaye avec leurs propres deniers mais aussi avec des subventions de l'État, donc on est au début des années 60, et leur projet c'est de faire de l'abbaye l'écrin pour présenter leur collection d'art contemporain. Aujourd'hui cet art contemporain il est devenu de l'art moderne pour nous, mais à l'époque vous imaginez en plein cœur du Rouergue voir ces deux Parisiens arriver avec des Dubuffet, des Antaï ou des Vasarely, vous imaginez que c'était un véritable ovni.
Ouais. Voilà. Effectivement.
Et donc ils ont légué, après l'avoir restauré, le monument au Centre des Monuments Nationaux, ainsi que leur collection d'art moderne. Et Geneviève Bonnefoy, qui avait l'usufruit d'une partie de l'abbaye, est décédée l'année dernière. Et donc on va pouvoir aujourd'hui présenter, donc selon leurs vœux, leur collection d'art moderne de manière permanente dans le logis abbatial qu'elle occupait. Et donc c'est là que réside l'essentiel des travaux qui vont être menés. On va créer un musée dans le logis abbatial.
Ça représente combien d'œuvres ?
Alors la collection Brache Bonnefoy est en cours de récollement, mais on arrive à 600 œuvres.
Ah quand même ?
Voilà.
Mais vous n'allez pas pouvoir toutes les mettre.
Et non, on va en présenter 160 environ dans le parcours permanent, sachant qu'il y aura aussi un roulement sur certaines œuvres, puisqu'on a des œuvres d'art graphique, c'est-à-dire des œuvres qui sont sur papier, à l'encre ou à aquarelle, etc. Et donc celles-ci, elles peuvent pas être présentées de manière permanente, sinon elles s'abîment. Donc on fait un roulement. Et puis, sur certaines toiles peintes également, on va procéder à un roulement.
Donc ce qui veut dire que dans l'abbaye, vous avez dû prévoir une pièce spéciale pour conserver les œuvres alors ? Ou est-ce qu'elles sont conservées ailleurs ?
Les travaux d'aménagement concernent également la création d'une réserve adéquate pour les œuvres qui ne pourront pas être présentées de manière permanente. Et puis aussi, on travaille en réseau avec les musées et les monuments d'Occitanie, et même avec les lycées et les collèges. On est en train de bâtir un projet pour que certaines des œuvres ne dorment pas en réserve, mais aillent être exposées de manière ponctuelle sur l'ensemble du territoire.
Et donc, si j'ai bien compris, l'abbaye de Beaulieu, en Rouergue, on peut la visiter ?
Elle se visite, on visite donc les monuments abbatiaux qui sont pour la plupart médiévaux, mais on visite aussi chaque été une grande exposition d'art contemporain et une grande exposition d'art moderne. On a deux expositions en ce moment.
Ça fait combien de visiteurs par an ?
Eh bien là, l'année dernière, nous avons atteint les 9000, mais la fréquentation est très bonne cette année, donc on devrait largement dépasser ce cap.
Question idiote, avec la canicule, il doit faire plus frais, donc si ça se trouve, les gens ils viennent un peu plus.
C'était un excellent havre pour se mettre au frais, effectivement.
Et donc, vous êtes au frais tout le temps en travaillant là-bas, c'est ça qui est bien en même temps.
Oui, bon, mon bureau est au sud, donc un petit peu moins, mais en tous les cas, et l'hiver, on est bien au frais, ça je vous le garantis.
C'est clair. Bon, dans quelques instants, donc on va vous parler à vous de l'opéra du 9 août qui va se faire justement dans cette belle abbaye de Beaulieu en Rouergue. Il y a aussi également une exposition. Moi, je vous propose, on se fait une, on va écouter Eyal justement histoire de respirer, parce que moi, je suis bien content de faire ces émissions rien que pour apprendre tout ce que j'ai appris aujourd'hui. Vous voyez, pour des gens comme moi. Là, je raconte un petit peu ma vie. Mais pour des gens comme moi qui viennent d'arriver ici, dans le coin, savoir qu'il y a une abbaye comme ça, qui est gérée par les monuments nationaux, et en plus de cela, qu'on peut la visiter, qu'il se passe des choses, voilà, c'est à ça que sert le magazine du Tarn-et-Garonne. Allez, vous restez avec nous. On parle cette fois du spectacle dans quelques instants. Voici Eyal. Il est toulousain. On dirait le bonheur. Et c'est sur CFM.
Je m'imagine sur un long fleuve tranquille où le temps reste beau, même si tout tombe à l'eau. Je souffle en fer des bulles, de grandes et minuscules, où traînent les souvenirs lâchés dans le vide. Le matin se lève et tout va recommencer. Je trempe ma lassitude dans un bol de ridicule où j'apprécie le geste toujours autant comme le reste. J'entends des bruits dehors où les feuilles se battent encore. C'est peut-être le vent qui frappe à ma porte quand
le matin se lève et tout va recommencer.
Sur CFM Radio dans votre mag du Tarn-et-Garonne et du Lot. Nous sommes avec Benoît Gricourt, administrateur au... Et c'est marrant, je suis obligé de noter, de lire à chaque fois le Centre des Monuments Nationaux tellement j'ai peur de mélanger les mots, c'est incroyable. Donc vous êtes administrateur, vous gérez le château de Gramont et l'abbaye de Beaulieu qui vous propose un opéra en collaboration avec l'association Le Cabaret du Hasard. On va déjà commencer par l'opéra, effectivement, hein, bel opéra. Pourquoi d'ailleurs cet opéra-là ?
Alors, pourquoi Puccini ? Eh bien, parce que Geneviève Bonnefoy, dont je vous ai parlé juste avant, était une grande amatrice de musique classique.
Celle qui a donné l'abbaye,
l'ancienne propriétaire, et celle qui a constitué la collection d'art moderne. Elle aimait beaucoup la musique classique et la musique italienne, de la fin du 19e particulièrement. Donc Tosca, c'est quelque chose, c'est une œuvre très très lyrique, très dramatique, et nous trouvions que c'était absolument parfait pour le décor historique de l'abbaye de Beaulieu.
Mais vous allez le faire comment, sur un écran géant, donc à l'extérieur ?
Oui, dans le cloître. Le cloître a disparu, il a été détruit lors des guerres de religion, mais il reste donc son emplacement, qui est le carré donc au centre de l'abbaye. Et il y a un écran géant, un écran gonflable qui va être installé, et on va diffuser cet opéra qui a été filmé à l'opéra de Zurich il y a quelques années.
Bon, alors dites-moi, ça veut dire que là, vous allez recevoir du monde. C'est bien. Ça fait venir peut-être des gens qui ne seront pas venus, habituellement peut-être.
Mais sans doute, c'est exactement l'objet d'une programmation culturelle dans un monument. Il faut essayer de proposer des choses suffisamment variées pour que chacun puisse s'y retrouver, puisqu'un monument national, comme son nom l'indique, eh bien doit séduire chacun de nous, et on a une obligation, j'allais dire, de service public, et on est là pour ça, pour vous proposer des choses culturelles qui vous fassent
Et justement,
grandir.
Si vous n'aimez pas l'opéra, vous pouvez toujours venir jusqu'au mois de septembre pour voir l'exposition de Liz West, In the Light, donc dans la lumière en français. Pourquoi alors, c'est vous qui l'avez choisi ou c'est elle qui vous a proposé ?
Non, c'est moi qui ai choisi Liz
Pourquoi
West. Mais il se trouve que j'avais, il y a quelques années, découvert son œuvre qui s'appelle Our Color Reflection, désolé pour l'accent, à l'église Saint-Marc de Londres. Et j'avais été fasciné par cette œuvre qui est composée de 800 miroirs colorés et qui s'amuse avec l'architecture en projetant donc des couleurs sur les murs, sur les voûtes du bâtiment, et aussi qui s'amuse avec les reflets que l'on voit du monument dans les miroirs. Et en arrivant à Beaulieu, il y a un peu plus d'un an maintenant, j'ai tout de suite pensé que c'était un écrin idéal pour accueillir cette œuvre. Donc j'ai contacté Liz West et le président Philippe Bellaval, donc le président des Centres des Monuments Nationaux, a tout de suite été séduit par cette proposition.
Ça veut dire que vous avez mis combien de temps pour installer cette exposition ?
Alors cette œuvre-là, nous étions, je crois, 10, et nous avons travaillé 2 jours pour disposer ces 800 miroirs qui donc couvrent le sol de l'église abbatiale. Voilà, ce sont des miroirs en plexi de diamètre et de couleur différents et qui sont posés sur des petits cylindres en plexi transparents, et ce qui fait que ça joue donc avec le volume.
Et vous, moi, et en même temps, il y a une opération de nettoyage. Ça doit être
sympa. Oui, alors ça c'est moins sympa. Une fois par mois, oui, il faut forcément nettoyer tous ces miroirs, puisque bien la poussière, les oiseaux qui peuvent entrer dans l'église laissent quelques petits souvenirs.
On imagine bien, oui. Donc c'est à voir effectivement à l'abbaye de Beaulieu en Rouergue. C'est l'opéra le 9 août à 21h. C'est à Ginal dans le Tarn-et-Garonne. C'est 10€, gratuit pour les moins de 13 ans. En plus, c'est vraiment pas cher pour voir un beau spectacle. C'est à voir en plus jusqu'au mois de septembre, l'exposition de Lise West qui est ce qui s'appelle Dans la lumière. Merci. Je rappelle, Benoît Grécourt, que vous êtes l'administrateur de ce bâtiment. En tout cas, du monument historique. Ben, c'était un plaisir parce qu'on a appris énormément de choses. Voilà.
Merci beaucoup, Yannick.
Merci beaucoup. C'est terminé aussi pour nous. En ce qui concerne, on a pris un petit peu de retard, mais il n'y a plus de magazine là pour l'instant, ça va. Donc, pas de souci. C'est la fin de votre mag pour aujourd'hui. Mais je tiens à vous rappeler quand même, le Tarn-et-Garonne a été mis en vigilance orange aux orages. Soyez prudents, on ne sait jamais. Sinon, le magazine rediffusion demain à midi et en podcast dès demain également sur cfmradio.fr. Demain à 17h, nous vous présenterons le festival C'est Où, qui se déroule du 30 août au 1er septembre à Concorès dans le Lot. Votre soirée continue sur CFM, tout de suite votre playlist rock. Et puis à 19h, on voyage dans le monde entier et en musique avec des musiques et des mondes, suivi d'un voyage littéraire à 20h en compagnie d'une rediffusion du cercle de lecture de Confluence. À demain pour le magazine.
Acteurs locaux, chefs d'entreprise, responsables politiques ou associatifs. CFM, le MAG. Tous les jours, 17h-17h30. La vie du Tarn-et-Garonne.